Cette partie de l'évangile de Jean nous présente les disciples de Jésus entre deux temps forts. Nous sommes après la mort de Jésus et avant de partir en mission. Cette histoire est à la fois insolite, merveilleuse et troublante. Elle est insolite parce que ce récit est un texte ajouté, sans doute écrit après, et qui n'est vraisemblablement pas de Jean lui-même, mais qui rejoint la pêche miraculeuse qui est également présente dans l'évangile de Luc. Et dans les deux cas, cette pêche miraculeuse est associée à l'appel des premiers disciples. Elle est merveilleuse parce qu'après avoir pêché toute la nuit sans rien prendre, ce qui est une situation classique d'échec, surtout si certains d'entre vous ont déjà essayé de faire de la pêche, voilà que sur une seule petite indication de rien du tout, à savoir jeter le filet du côté droit du bateau, la pêche devient surabondante, comme par magie. Ce texte est également troublant parce que si nous nous attardons sur les détails, on y remarque assez vite plusieurs incohérences apparentes, des symboles et des contradictions de premier abord. Par exemple, à la question de Jésus « N'avez-vous rien à manger ?», ce qui entraîne la réponse négative des disciples, puisqu'ils n'ont rien, effectivement, voilà que Jésus les invite à déjeuner sur la plage, un pique-nique avec du pain et des poissons sur la braise, sans qu'on nous dise d'où ils proviennent et tout en leur demandant d'apporter leurs propres poissons. C'est donc un récit à la fois ésotérique et riche de messages qu'il faut prendre le temps de déchiffrer afin de les comprendre. Je vous propose de les découvrir en trois étapes. La première, je l'appellerai « Des ténèbres à l'aube nouvelle ». Qui sont-ils, ces disciples? Il y a d'abord Simon-Pierre qui a renié Jésus, Thomas, celui qui avait besoin de preuves, Nathanaël, originaire de Cana et qui consacre sa vie à l'étude des Écritures, les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, dont la mère rêvait pour eux d'une ascension sociale, et deux disciples anonymes, dont le disciple bien-aimé qui était au pied de la croix. Chacun est là avec son histoire et sa personnalité, comme Simon-Pierre qui garde sa détermination. Le disciple qui reste anonyme peut symboliser chacun d'entre nous écoutant cette histoire. Ces hommes sont retournés en Galilée. Ils sont revenus au point de départ, en se demandant sûrement vers quelle route se tourner, comment continuer. Sur le bord du lac, ils ont repris l'activité qu'ils connaissent le mieux, on dirait aujourd'hui leur activité professionnelle, à savoir la pêche. Ce grand lac, cette mer, représente par ailleurs le mal, l'épreuve, l'obscurité, la mort. Et l'on voit ses disciples, non pas dans la journée, mais dans la nuit du doute, de l'épreuve, de la crainte, menacés par cette mer profonde, avoir essayé dans tout ce mal de pêcher de trouver des éléments de vie, de dénicher des motifs d'espérance et de joie. Ils le savent, dans toute épreuve on peut trouver du bien, dans toute épreuve on peut trouver quelque chose de positif. Ils font l'expérience aussi du vide que représente la mort d'un être cher qui les plonge dans une vie qui n'a plus le même goût. Le matin vient, celui d'une aube nouvelle. Le matin, c'est l'aube. Jésus se tient sur le rivage, mais nous dit le texte, il ne savait pas que c'était lui. Cette phrase fait un peu l'écho à celle de la rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Souvenez-vous, tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus, qui se tenait debout, mais elle ne savait pas que c'était lui, dans Jean 20, verset 14. Les textes qui parlent de la présence du ressuscité témoignent tous de la difficulté de le reconnaître, de l'identifier concrètement. On nous dit que c'est la troisième fois que Jésus se montre, se manifeste après la résurrection. On pourrait presque dire quatrième, mais en fait c'est trois moments principaux. La première fois, souvenez-vous, c'est bien en rencontrant Marie-Madeleine le matin de Pâques et en rencontrant les disciples calfeutrés sans Thomas le soir même. La seconde fois, c'est une semaine plus tard avec les disciples, en présence cette fois de Thomas qui avait besoin de toucher pour croire. Mais cela ne semble pas suffisant. Il faudra finalement une troisième manifestation pour que les disciples puissent croire pleinement à la résurrection. Mais cette fois, quelque chose est en train de bouger. C'est à ce moment-là que le récit bascule. Jésus, qui est présent là, sur le bord, va débloquer la situation. Et c'est là que les disciples vont tout à coup basculer, des ténèbres à la lumière, de l'absence à la présence, du manque à l'abondance. C'est lui qui va, par une parole, les aider à sortir de leur marasme. Deuxième étape de notre réflexion, n'avez-vous rien à manger ? Ou l'annonce du salut. Il va en effet leur dire, n'avez-vous rien à manger ? Et on peut comprendre cette question de deux manières. La première, c'est que en verbalisant la situation dans laquelle ils se trouvent, eh bien, cela leur permet d'en sortir. Oui, en effet, nous n'avons rien à manger. Oui, je sais, je suis triste, je suis déprimé, je suis dans l'épreuve. À partir de là, il est possible de reconstruire. Et deuxième interprétation possible, ils vont comprendre aussi cette question comme une requête. Ils peuvent l'avoir compris comme une requête qui va finalement les tirer d'affaire. Ce n'avez-vous rien à manger ? Ils l'entendent comme qu'avez-vous à me donner ? Voilà une question incongrue. Comment peut-on demander à celui qui n'a pas de pain quelque chose à manger ? Mais les disciples vont repartir à la pêche, rechercher, fouiller, ressonder les profondeurs de cette mer noire qui ne leur avait rien livré. Ils vont repartir à la quête pour rechercher autre chose, mais cette fois d'une autre manière, en s'y prenant d'une autre façon. Et ça, ça va tout changer. Le Christ leur dit en effet, « Jetez vos filets du côté droit, c'est-à-dire du bon côté. » On peut toujours voir les choses sous un autre aspect. Et puis la droite, pour les Juifs, c'est le sud, puisque les cartes étaient tournées vers l'Orient. La droite, c'est le côté de la pleine lumière. Quand les choses sont éclairées, éclairées par l'amour du Christ, par l'amour de Dieu, nous pouvons y trouver du bien que nous n'y trouvions pas avant. Alors ils ne chercheront plus cette fois pour eux seuls, mais pour un autre. Quand on cherche pour quelqu'un d'autre, on trouve, parce que l'on sort d'une démarche purement égocentrique, égoïste, qui, nous faisant nous retourner sur nous-mêmes, nous empêche de nous tourner vers la vie. Quand on se dit, non pas « comment pourrais-je trouver dans ma vie du bonheur ?» mais plutôt « comment pourrais-je trouver dans ma vie quelque bonheur à donner aux autres ?» Quelque parcelle même de ce bonheur un peu caché qu'il nous reste toujours dans cette espérance qui luit au fond de nous-mêmes. Eh bien, on en trouve. Et on en trouve à foison. On en trouve jusqu'à faire déborder les barques et faire craquer les filets. Et tout devient alors surabondance, et c'est là que le miracle arrive. C'est que finalement, en cherchant ainsi pour un autre, eh bien, ils en ont plein assez pour eux-mêmes. Comme au matin de la résurrection, le disciple bien-aimé, qui est aussi la figure du disciple véritable, est le premier à reconnaître Jésus, il alerte Pierre, qui, comme à son habitude, se précipite. Cette annonce provoque en lui une sorte d'électrochoc. Il s'habille car il était nu, nous dit le texte. En fait, il met son vêtement autour de sa taille comme une ceinture, et il plonge dans la mer. Être nu dans la Bible, c'est se reconnaître imparfait, faible et vulnérable. Se reconnaître imparfait, c'est la première condition pour pouvoir aider les autres. Quand on arrive, en effet, vers les autres en disant « je suis bon, je suis le meilleur et je vais vous sauver », on n'aide personne. Pour aider les autres, la première chose, c'est de se savoir imparfait, de se savoir faible, sans prétendre être meilleur que tout le monde. En mettant son vêtement autour des reins comme une ceinture, Simon-Pierre revêt la vie, l'habit du serviteur, comme le costume de celui qui reçoit un nouveau devoir, se l'approprie et s'engage à servir. Ceindre ses reins dans la Bible signifie contenir ses passions pour le service de Dieu. Simon-Pierre devient à ce moment-là le serviteur du ressuscité. Et il s'immerge dans l'eau pour le rejoindre sur la rive. On peut voir en filigrane dans cette immersion le symbole du baptême, un baptême un peu inversé mais qui symbolise la grâce et l'appel à son action. Pierre se jette dans la grâce de Dieu, cette grâce qui le pardonne. Pierre se jette dans cette grâce qui nous sauve, et se jeter dans la grâce, c'est faire confiance dans la grâce. C'est se plonger dans l'amour de Dieu, dans sa bonté, d'être tout entier là-dedans en ayant cette espèce de confiance extraordinaire, de pouvoir quitter ses prétendues certitudes et lui permettre d'aider les autres et de trouver son propre salut. Troisième étape de notre réflexion, devenir des pêcheurs d'hommes. C'est finalement le fondement de l'Église naissante. La mission de Pierre est ainsi inaugurée. Il rejoint Jésus près du feu sur lequel cuisent du pain et des petits poissons. Le mot grec utilisé pour désigner le petit poisson est un mot qui se traduit par frottin. Ce menu frottin, ou le petit frottin, comme on dit maintenant. Le poisson qui passe par les mailles du filet. Jésus demande qu'on apporte les gros poissons, désignés en grec par le mot ichthus, qui deviendra le symbole des premiers chrétiens clandestins. Il y a un va-et-vient incessant dans un jeu de mots entre les gros poissons et le menu frottin. Si la pêche symbolise la mission des disciples, les gros poissons sont au nombre de 153. Pourquoi 153? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 1000? Ce chiffre, évidemment énigmatique, parlait sans doute plus aux contemporains de l'évangéliste Jean, car à l'époque, c'était 153 le nombre des espèces animales connues. Mais sans doute moins à nous aujourd'hui, mais cela peut nous signifier, nous signaler l'universalité de l'Église. En effet, 153 est la somme de tous les nombres compris entre 1 et 17. 17, par ailleurs, c'est le nombre des peuples cités qui reçoivent l'Esprit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 9 à 11. 153 symbolise, on peut le dire, ainsi la totalité des chrétiens de tous les temps et leur multitude. C'est là toute la richesse de ce texte chargé en symboles. On peut tout à fait imaginer que les gros poissons désignent, au moment de la rédaction de l'Évangile, les responsables des premières communautés chrétiennes. Alors qu'est-ce que le frottin, sinon le symbole du plus petit, du plus dérisoire, du plus fragile? Mais finalement, ce qui n'est ni dans les règles, ni dans la légalité, ni dans les habitudes. Il représente, à mon avis, tous ceux qui attendent d'être intégrés d'une façon ou d'une autre dans l'Église naissante, et qui sont d'une origine différente, qui ont une origine différente de celle des disciples. Le filet, à ce moment-là, devient le symbole de l'ensemble de l'Église, les disciples agissant sur la parole du Christ ressuscité qui se met à l'œuvre. Jésus promettra à Pierre, dans le parallèle de ce texte, dans les autres évangiles, « C'est bien, tu es pêcheur et tu as péché, c'est parfait, mais suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. » C'est la mission fondamentale du chrétien, non seulement d'aller chercher dans la mer des parcelles de vie, d'espérance, mais aussi d'aller chercher dans la mer des êtres humains eux-mêmes pour les ramener à la vie. Devant cette mission que nous confie le Christ, nous pouvons nous sentir démunis. Nous pouvons nous dire « Comment parviendrai-je, moi, à aider mon frère? Comment parviendrai-je à permettre à celui-là, mon voisin qui souffre, à lui faire voir la lumière? Toute la nuit je cherche et je n'y parviens pas. » Alors le Christ nous dit « Allons ensemble, jetons notre filet d'une autre manière, faisons autrement et vous y arriverez. » La mission de l'Église est née ce matin-là sur une plage du lac de Tibériade, avec une pêche miraculeuse et le partage du pain et du poisson grillé, signe de réconciliation entre les disciples et le ressuscité. Ce point de départ est un appel à rassembler des êtres humains de partout, dans l'unité d'une unique communauté, solide, stable, persévérante, à la fois souple, flexible, résistante, autrement dit, adaptable à la nouveauté, parce que enracinée dans la personne du ressuscité. La mission peut alors être féconde, et il n'y a aucune peur à la mener à bien, jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pour cette Église naissante qu'une seule conviction qui la fonde. Il n'y a pas d'échec pour l'être humain comme pour le monde que Dieu ne puisse pas surmonter. Alors, en conclusion, en quoi cela est important pour nous aujourd'hui? C'est que nous n'avons donc rien à craindre, que rien ne peut décourager Dieu de se rendre présent à nous et de nous envoyer vers les autres. Rien n'écarte Dieu de son projet, rien n'écarte le Christ de la route où il vient nous rencontrer, nous sauver, nous ressusciter, pas même la mort. Il aurait pu laisser ses disciples s'embêter à pêcher le reste de leur vie. Ils auraient pu survivre ainsi et subvenir à leurs besoins. Non, il ne l'a pas fait. Parce qu'il ne nous laissera pas non plus, nous non plus, croire en lui sans rien faire de nous. Sinon, quel sens aurions-nous pour notre vie? Il nous appelle donc à être des rayons de lumière pour les autres, à être des porteurs d'espérance pour ceux qui se meurent de ne pas trouver de sens à leur vie. et à apporter des sourires confiants pour ceux qui ne savent plus vivre, à offrir des espaces de paix et de joie pour ceux qui se perdent dans ce monde de ténèbres et de guerres encore présentes. Mais non, nous ne sommes pas tout seuls. Regardez dans votre vie. Regardez, ne le sentez-vous pas qui vous dit qu'il est là pour lever les filets avec vous? Ne sentez-vous pas qu'il vous assure de sa présence, même dans la difficulté, même si la pêche semble infructueuse? Buvez donc ces paroles. Écoutez dans votre cœur cette présence incertaine. Prenez le pain et le vin qu'il vous offre et qui fait que cette présence devient certaine. Et alors, il vous fera pêcheur, mais des pêcheurs d'hommes. La résurrection prend son vrai sens quand nous nous laissons habiter par Jésus pour continuer dès maintenant l'œuvre qu'il a réalisée quand il était sur terre. Nous sommes appelés à devenir, tant que nous vivrons, les membres et la voix, l'intelligence et la sensibilité du ressuscité qui désormais vit en nous et agit au travers de nous. Amen.